RCF.
La reine Elisabeth II d'Angleterre est un cas unique, avec ses 70 ans de règne. Elle était déjà entrée dans l'histoire avant son décès, le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Cette longévité exceptionnelle lui a valu de traverser nombre d'événements mondiaux et internationaux en tout genre, mais également des événements personnels, familiaux, qui ont défrayé la chronique et parfois fait scandale. Pourtant, cette femme mondialement connue, qui était devenue une sorte d'icône, était aussi une femme discrète. Elle est montée sur le trône comme on entre en religion, peut-être la vocation en moins. Elle n'était pas destinée à régner, et ce sont des circonstances inattendues qui l'ont faite reine. Néanmoins, elle a accompli son devoir avec zèle et abnégation. Si pour certains la monarchie qu'elle incarnait est de notre âge, chacun souligne la constance qu'elle symbolisait. Avec sa disparition, c'est un chapitre de l'histoire contemporaine qui se clôt. Je vous propose d'en parcourir quelques pages avec Jean Descartes, auteur d'une biographie consacrée à Élisabeth d'Angleterre, parue chez Perrin en 2018. Jean Descartes est spécialiste de l'histoire des grandes dynasties européennes. Il a consacré des ouvrages à quelques-uns de leurs plus illustres représentants. Ses entretiens ont été enregistrés au moment de la publication de son livre. Il revient, pour commencer, sur la jeunesse de la future reine Élisabeth II.
La suite de l'histoire.
La reine est née le 21 avril 1926. Il n'est pas question d'envisager un jour qu'elle serait souveraine. Ce qui est prévu par la loi de succession à ce moment-là, c'est que son oncle, le futur Édouard VIII, le futur sulfureux duc de Windsor, devait régner. Il a très peu régné, moyennant quoi cette année 1936 sera un cauchemar pour la famille royale, parce que George V, le grand-père d'Élisabeth II, le héros de la Première Guerre mondiale, meurt en janvier. Édouard VIII ne règne qu'à peu près 8 mois et abdique pour pouvoir épouser Madame Simpson en décembre 1936. L'année des trois rois pour les Britanniques est un cauchemar. Et cela fait avancer sur le trône le père de la princesse Lilibet, comme on dit à l'époque, Albert, qu'on surnomme Bertie, et qui devient le roi George VI, et qui sera le roi héroïque de la Seconde Guerre mondiale, constituant avec Churchill un duo politique, militaire et diplomatique absolument remarquable et inattendu.
Elle est donc l'héritière du trône.
L'héritière. Mais il faut quand même ajouter, et les archives sont très claires à ce sujet, le roi George V s'était assez vite aperçu que son successeur désigné, Édouard, était très léger, noceur, pas sérieux, intelligent, mais faible. Et il avait déjà esquissé l'idée que sa petite fille pourrait lui succéder. Et c'est pour cette raison qu'il va la faire monter au balcon de Buckingham Palace quand elle a 5 ans et 6 ans et apprendre le fameux salon, le Royal Wave, pour saluer la foule.
C'est une enfant qui a une sœur, Margaret. Ce sont des petites filles qui sont élevées dans quel climat ?
Dans un climat d'entente et d'harmonie familiale complète, ses parents s'adorent. Celle qui sera la reine-mère est un personnage extraordinaire, qui est écossaise et qui apprend à Élisabeth et à sa sœur à bien aimer toutes les parties qui constituent le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Écosse, l'Irlande depuis la partition des années 20, l'Angleterre proprement dite, le Pays de Galles. Et ils ne se quittent jamais, ils sont très heureux d'être ensemble.
Ces voilà. Quatre-là.
Les quatre-là. Us four, nous quatre. C'est très important parce que Élisabeth est très attachée à la vie de famille. Elle est sérieuse, elle travaille très bien, elle est très pointilleuse, très organisée. Sa sœur Margaret, c'est un peu le clown de la famille, elle s'amuse beaucoup. Élisabeth a beaucoup d'humour, s'amuse aussi, je le montre dans les photos rares qui sont dans ce livre, mais elle est beaucoup plus consciencieuse.
Elle est préparée à devenir reine dans son éducation et dans ce qu'on lui transmet en termes de savoir, de connaissances ?
Alors je dirais qu'on va lui transmettre une bonne éducation politique et constitutionnelle, une éducation un peu plus limitée sur le plan intellectuel et littéraire, ce dont elle souffrira et elle le dira elle-même.
Sa mère ne trouve pas ça vraiment essentiel.
C'est ça. Mais il faut bien comprendre, dans le système de la monarchie britannique, que le souverain a des droits et des devoirs, comme le gouvernement. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que depuis la reine Victoria, le souverain britannique dispose de 3 prérogatives qui sont exprimées en principe chaque mardi par l'audience confidentielle donnée au Premier ministre. Le droit d'être informé, le droit de consulter, le droit de mettre en garde. Et ce qu'on oublie souvent en France, c'est que c'est en fait la reine qui conseille, car elle a eu tous les dossiers, et Elisabeth II, y compris encore aujourd'hui, travaille beaucoup. Elle reçoit ce qu'on appelle les Royal Boxes, ces boîtes de cuir rouge au monogramme du souverain, qui sont évidemment aujourd'hui complétées par toutes les procédures informatiques et cryptées possibles, de façon à étudier les dossiers, les projets de débat au Parlement, les projets soumis par le gouvernement, la situation internationale, les rapports de services secrets, etc. C'est une femme qui sait tout. Alors en fait, comme on dit le gouvernement de Sa Majesté à Londres, elle propose, le cabinet décide, mais si elle dit « êtes-vous sûr que ce soit la bonne décision ?» Par exemple, on peut très bien envisager, c'est une supposition, que lorsque David Cameron lui a parlé du référendum sur le Brexit, elle lui a nécessairement dit « êtes-vous sûr, monsieur le Premier ministre, que ce soit une bonne idée ?»
In this country, I've had to leave your home and be separated from your fathers and mothers.
Extrait du discours adressé par la princesse Elisabeth aux jeunes britanniques en 1940.
My sister Margaret Rose and I feel so much for you. As we know from experience what it means to be away from those we love most of all. To you, living in new surroundings, we send a message of true sympathy. And at the same time, we would like to thank the kind people who have welcomed you to their homes in the country.
Vous avez fait rapidement allusion, Jean Descartes, à son implication dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une jeune fille à ce moment-là qui ne fuit pas ses responsabilités et qui a le souci de manifester au peuple sa proximité et son engagement personnel.
Oui, elle le manifestera par un discours à la nation, mais enfin s'adresser à la jeunesse avec sa sœur Margaret pour dire combien elle partage les souffrances du peuple britannique, notamment les marins qui sont morts dans des débuts de la guerre contre l'Allemagne. Elle est très sensible à tout ce qui peut unir la nation. Alors il ne faut jamais oublier qu'elle est aussi, elle sait qu'elle va le devenir à la mort de son père, le chef du Commonwealth, qui à cette époque représente 32 États. 16 aujourd'hui. C'est une femme qui a une couverture politique et émotionnelle, je dirais, mondiale.
Et elle le manifeste dès la guerre ?
Elle le manifeste dès la guerre. Elle l'a manifesté dans ses fameux discours avec sa sœur pour dire qu'elle était au service de la nation. Et elle le répétera le jour de sa majorité, disant « Que ma vie soit longue ou courte, je serai au service de la nation et de ce lien qu'est le Commonwealth. »
Et alors quand on dit qu'elle a mis les mains dans le cambouis, c'est pas une image.
C'est pas une
c'est
image.
C'est à prendre au sens propre
elle
du
a
terme.
Tenu, elle a tenu à exercer le métier d'ambulancière, de mécanicienne d'ambulance, réparant des moteurs, conduisant. Elle était, il faut bien le savoir, au château de Windsor, où elle était réfugiée avec ses parents, parce que Buckingham Palace avait été bombardé, à côté de boîtes de biscuits où étaient cachés les joyaux de la couronne. Elisabeth et sa sœur étaient soumises aux mêmes restrictions que le peuple britannique. Un œuf par semaine, le dimanche, et un bain tous les jours dans une eau très limitée, très froide. Le niveau de l'eau dans la baignoire avait été fixé par son père. Elle a toujours partagé ce qui arrivait au peuple britannique.
Thank you.
Une autre chose importante qui va marquer sa vie d'adolescente, c'est la rencontre, et on peut même parler de coup de foudre, pour celui qui deviendra son mari. Elle n'avait que 13 ans, la première fois qu'elle le voit, et ce garçon la fascine.
Alors ça se passe le 13 août 1939, c'est une période qui va devenir très vite sensible. Au Collège Royal de Dartmouth, Elisabeth accompagne ses parents avec Margaret et elle est frappée d'amour, je dirais, par cet aspirant de la Royal Navy, Philippe, qui est un garçon très séduisant, qui a eu une vie compliquée. Son arbre généalogique est très impressionnant. Bref, il est né à Corfou en 1921, c'est un prince de Grèce dont la famille s'est mal entendue, il a toujours été seul. Et il a été pris en charge, pour résumer, par Louis Mountbatten, qui est son oncle, et qui est sans doute aussi à l'origine de ce projet de mariage, parce qu'il avait une mentalité de marieur. Mountbatten, qui sera le négociateur de l'indépendance de l'Inde. Pour Philippe, même s'il y a de l'amour et de la tendresse, c'était, je dirais, un rétablissement social spectaculaire. Mais évidemment, le roi George VI s'opposera à ce mariage parce qu'il y a la guerre qui arrive. Et Elisabeth est beaucoup trop jeune. Donc le mariage sera repoussé au 20 novembre 1947. Alors c'est un mariage qui est le premier mariage royal, enfin dans le Gotha au plus haut niveau, de l'après-guerre. Il est mis en scène, si je puis dire, photographié par Cecil Beaton, qui est le grand photographe des cours.
Et médiatisé.
Et médiatisé. Donc il y a dans ce mariage, selon la formule de Churchill, c'est un éclair de lumière dont le pays a besoin. Nous sommes en 47, dans des restrictions et un héroïsme qui continue après les bombardements de Londres et tout ce que l'on sait.
Merci beaucoup et on vous retrouve demain, Jean Descartes.